Le discipula, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un disciple? On a appris que notamment le mot disciple est celui qui a le mot qui a été utilisé et après le mot chrétien. Plus tard, et il a été donné d'ailleurs, ça n'était pas, je dirais, une extension de la doctrine juive, mais le mot chrétien est venu par les non-juifs pour dire chrétien, Christ, petit Christ. Évidemment, des chrétiens sont des gens qui ressemblent à Christ, mais avant ce mot-là, il y avait à juste titre le mot disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend d'un maître. Mais ça n'est pas quelqu'un qui apprend d'un maître par correspondance. Ça n'est pas quelqu'un qui apprend d'un maître en le voyant une fois par semaine. C'est quelqu'un qui apprend d'un maître en marchant littéralement à l'ombre de ce maître. C'est-à-dire que grosso modo, il vit avec celui de qui il apprend. Il n'apprend pas dans le but d'augmenter sa connaissance intellectuelle, il apprend dans le but de ressembler à ce maître, parce que ce maître est un exemple à suivre. Et il y avait une bénédiction qui était parlée il y a 2000 ans et peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui. Mais la bénédiction était « Puisse la poussière des pieds de ton maître te recouvrir ». C'est-à-dire marcher tellement près de cet exemple à suivre. De cet exemple à suivre parce que c'est quelqu'un qui lui-même suivait Jésus. Suivait l'exemple d'Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Moïse, tous ces hommes de la foi, mais tous ceux qui ont marché avec Dieu. Et c'est vrai que dans la vie de la foi, il n'y a pas une vie où on est son propre exemple. Ça n'est pas la vie où nous sommes notre propre standard. Mais la vie de la foi nous a été transmise de manière à ce que nous aussi nous suivions un maître. Alors c'est vrai que nous avons des exemples, je dirais humains, dans le sens les parents devraient être un exemple, c'est-à-dire que les enfants devraient marcher dans la poussière des parents, et malheureusement quelquefois ils sont obligés de dire ça je prends et ça je laisse. Mais il y a toujours de bonnes choses à un moment à recevoir des parents. Un pasteur devrait être un exemple à suivre dans la foi. Si votre pasteur n'est pas un exemple à suivre dans la foi, changez d'église s'il vous plaît. Mais ça c'est un minimum. Et puis, tous ceux qui nous, l'équipe pastorale doit être un exemple à suivre dans la foi. Des gens qui marchent avec le Seigneur depuis plusieurs années devraient être un exemple à suivre aussi dans la foi. Mais certainement, Jésus est l'exemple même. Alors, regardez avec moi. Donc, je vais en quelque sorte lier ce que j'ai dit précédemment sur le fait d'être un disciple avec le jour de la résurrection. Non, quand même. Alors, vous avez trouvé Hébreux chapitre 5. Regardez, à partir du verset 7. Il est parlé de Jésus. Il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il vivait sur terre, dans son corps physique, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris. Alors, il a été exaucé à cause de sa piété, ça veut dire qu'il a tout suivi des commandements de Dieu. Il a observé la loi de A à Z. D'accord ? Mais regardez ce qu'il est dit après. Il est dit, il a appris, ça c'est étrange, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à dire, mais notamment, j'aimerais aller dans cette direction-ci. Quand il est dit qu'il, alors il était, dans le sens, c'est pas il était et il n'est plus fils, hein, Jésus était fils de Dieu, il est et il sera toujours fils de Dieu. Hein. Mais ici, il est dit, il a appris par ses souffrances l'obéissance. Et là où je peux lier le mot disciple au jour de la résurrection, bien c'est grâce à ce verbe apprendre. Parce qu'ici, le verbe apprend vient du mot mathétès, on s'en rappelle, qui est le mot disciple. Jésus a appris comme apprend un disciple, c'est-à-dire par ce qu'il a vu et entendu. Et Jésus a dit, tout ce que je fais, je le fais parce que je vois le Père faire. Tout ce que je dis, c'est parce que j'entends le Père dire. Jésus a marché et la Bible nous dit, il est l'empreinte du Père. Et il est dit, il a appris l'obéissance. Alors, le mot obéissance est formé de deux mots ici, qui veut dire sous et écouter. Cela parle d'une position de quelqu'un qui a une position subalterne et qui écoute avec respect dans le but d'apprendre et de faire. Et là, effectivement, parce que Jésus a dit, tout ce que je fais, eh bien, je l'ai appris de mon Père. Tout ce que je dis, c'est parce que je l'ai appris de mon Père. Mais il est dit qu'il a appris l'obéissance par... Il a appris par ses souffrances l'obéissance. Ça paraît bizarre parce que Jésus n'a pas eu besoin d'apprendre à obéir. Vous rappelez ce qu'il est dit dans Jean 8, 29, il dit, tout ce que je fais plaît au Père. Vous rappelez que Jésus, que le Père a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Donc Jésus n'a pas dû à apprendre à obéir parce qu'il avait désobéi. Là, j'ai votre attention là. Hein. Il n'a pas dû apprendre parce qu'il avait désobéi. En revanche, souffrir lui a permis de comprendre une dimension de l'obéissance. Par exemple, si tu dis à quelqu'un, « Ah, moi, tu sais, moi, j'ai des enfants qui sont très, très obéissants. Allez, enfants, mangez votre glace, là. Oui, c'est le parfum que vous aimez, allez-y, mangez votre glace. » Bon, il va pas tellement nous impressionner par cela. En revanche, là, on va voir, c'est juste au moment où il y a un petit copain qui sonne à la porte pour aller jouer, eh bien, l'enfant entend sa mère dire, va ranger ta chambre que tu n'as pas encore rangée. Ça, c'est une autre forme d'obéissance. Et il y a peut-être un petit peu de souffrance qui est impliquée là-dedans. C'est-à-dire obéir quand on n'a pas envie d'obéir et obéir pour rester dans la volonté. Et c'est de cela que je veux parler. De la souffrance d'accepter une certaine forme de souffrance pour rester dans la volonté de Dieu. Il y a différentes formes de souffrance en tant que chrétien. On peut souffrir, on peut endurer la persécution, on peut endurer le rejet. On peut souffrir quand il y a des exaucements de prière qui n'arrivent pas à notre temps. On peut souffrir de mille et une manières. Mais on ne parle pas beaucoup du fait de souffrir pour rester dans la volonté de Dieu. De souffrir pour obéir à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit au verset 10. Ici, il est dit, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur. Et au verset 15 du chapitre 4, il nous est dit encore, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Un souverain sacrificateur, c'est quelqu'un qui plaide le cas des hommes, de l'être humain devant Dieu. là où nous devrions subir le jugement, notre souverain sacrificateur va plaider notre cas devant le juge suprême. Et aujourd'hui, on sait que Jésus est notre souverain sacrificateur parce qu'il a versé son sang et que légalement, la réconciliation a eu lieu il y a 2000 ans. Mais Jésus n'est pas devenu notre souverain sacrificateur juste parce qu'il est mort à la croix. Il y a quelque chose qui contribue à parfaire, on a entendu le verbe perfectionner tout à l'heure dans les versets, on a entendu le mot perfection. Il y a quelque chose qui a rendu parfait son rôle de sacrificateur, c'est que Jésus a sait ce que cela veut dire souffrir. Alors écoutez-moi bien, Jésus a souffert pour rester dans la volonté de Dieu. On va voir cela encore tout à l'heure. Il a souffert pour ne pas sortir de la volonté de Dieu. Jésus a souffert pour rester dans la volonté de Dieu. Et Jésus a souffert les conséquences du péché qu'il n'avait pas commis, mais que vous et moi avions commis. Il y a deux types de souffrances là. Souffrir parce qu'on a péché, et souffrir pour ne pas pécher, pour rester dans la volonté de Dieu. Jésus a connu les deux genres de souffrances. Quand il est dit, regardez avec moi maintenant, dans Hébreux chapitre 12, donc Jésus a souffert la souffrance pour rester dans la volonté de Dieu. Quelquefois, il y a des choix qui sont à faire. Quand, par exemple, c'est difficile de gagner sa vie dans une région, c'est très facile de dire à Dieu, « Eh bien, allez, moi, je vais ailleurs et je sais qu'ailleurs, je vais gagner plus. » C'est très facile de dire ça à Dieu. Et là, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Parce que peut-être que pendant un certain temps, il va falloir accepter d'endurer un manque de confort ou un standing de vie moins élevé pour rester dans la volonté de Dieu. Combien de gens ne sortent pas de la volonté de Dieu, ne sortent pas d'une relation, ne sortent pas d'un travail, ne sortent pas d'une église, ne sortent pas d'une région, ne sortent pas d'un pays, parce qu'ils n'arrivent pas à endurer la souffrance pour rester dans la volonté de Dieu. J'essaie de... Oui. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Vous savez, c'est dur quand on n'a pas ce que l'on veut de rester à son poste. C'est très, très difficile. Et il y aura une forme de souffrance, mes amis. Il y aura une forme de souffrance. Mais Jésus connaît ce genre de souffrance. Il l'a expérimenté. Et parce qu'il sait ce que nous subissons comme souffrance, comme tension, pour continuer à rester dans la volonté de Dieu qui nous a été révélée, eh bien, il y a peut-être quelque chose qu'il a à nous donner pour nous permettre de ne pas plier et de ne pas sortir de la volonté de Dieu. Vous avez trouvé Hébreux chapitre 12. Ah, c'est extraordinaire! Regardez à partir du verset 1. Nous donc aussi, nous aussi, qui est lié à ce que l'on a, ce que je vous encourage à lire chez vous avant d'ailleurs. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors la nuée de témoins sont tous les chrétiens nés de nouveau qui sont déjà au ciel. Et qui ont un regard sur les choses spirituelles sur terre. Et ils ne sont pas indifférents à notre vie sur terre. On ne peut pas les contacter, nous n'avons pas le droit de contacter ceux qui sont déjà partis de cette terre-là. Ça s'appelle ça de l'occultisme, et c'est condamné par les Écritures. Mais en revanche, quand on s'adresse celui qui était mort et qui est revenu à la vie, c'est Jésus. Il est de l'autre côté du voile, mais c'est celui à qui on peut s'adresser. Il est dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous entendez ça? Si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On va continuer. Ayant les regards sur Jésus et le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Ah, la croix était la volonté de Dieu pour Jésus. Il a dû endurer la souffrance de la volonté de Dieu. Mépriser l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, celui qui a enduré, supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je vous lis cette version ici. Il est dit, puisque nous sommes entourés d'une telle nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer. Et courons avec endurance, quelqu'un dit endurance, l'épreuve qui nous est proposée. Il y a une course, il y a une volonté de Dieu qui nous est proposée. La Bible dit que Dieu a pour chacun de nous des plans de paix. Tu dis oui, ben, c'est facile, mais avec les difficultés que je rencontre, mais dans nos difficultés, on peut expérimenter la paix, on doit expérimenter la paix. Parce que c'est une paix qui vient d'en haut. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui est divine, qui nous est donnée au beau milieu de la course qui nous est proposée, au beau milieu de l'épreuve qui nous est proposée. Les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement. Cela veut dire que la destinée qui est devant nous, tracée par Dieu, nous allons l'accomplir par la foi. Et par la foi, nous allons rejeter tout fardeau. Par la foi, nous allons courir avec persévérance. Par la foi, nous allons endurer. Jésus, et il est donné donc l'exemple, lui qui, renonçant à la joie qui lui revenait, endura la croix. Est-ce que Jésus était dans la volonté de Dieu quand il est mort? Oui, la Bible nous dit à 1000 reprises, il fallait qu'il meure. Il devait mourir. Il allait mourir. Il est dit, il endura la croix au mépris de la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, pensez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre lui, afin de ne pas vous laisser accabler par le découragement. Et il dit, d'ailleurs, si vous voulez voir que Jésus ne s'est pas laissé décourager, regardez un petit peu, Jésus, lui, a été jusqu'à résister jusqu'au sang dans son combat contre le péché qui avait pour but de le faire sortir de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la peau de Jésus, sous la pression de la résistance, sous la pression de la tension, sous la pression du stress, sous la pression de l'opposition des êtres humains, l'opposition démoniaque, pour le faire sortir de la volonté de Dieu, sa peau a commencé à se déchirer sous les couches et le sang a commencé à sortir, à perler. Et la Bible dit, aucun de nous n'a souffert ce genre de résistance contre le péché. Pourquoi nous n'aurons pas à aller jusque-là? Peut-être que parce que nous avons un grand prêtre, un souverain sacrificateur qui comprend ce que cela veut dire qu'endurer et qui est prêt à nous aider. Parce qu'il compatit à nos faiblesses afin que nous ne souffrions pas les souffrances qui sont liées au fait de sortir de la volonté de Dieu. Jésus était un parfait exemple. Regardez avec moi. Vous savez, il n'y a pas assez de chrétiens qui acceptent d'endurer la souffrance pour rester dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans une société où on fait tout pour alléger la souffrance. Alors, moi, je trouve que c'est magnifique. D'un point de vue médical, la science est suffisamment élaborée aujourd'hui pour nous proposer des moyens, des médicaments, des anesthésiants, tout ce que l'on veut pour alléger la souffrance physique d'un malade. Et ça, c'est magnifique, c'est bien. Je dis gloire à Dieu pour cela. Mais la souffrance pour rester dans la volonté de Dieu, ça, c'est autre chose, mes amis. La souffrance pour rester pure quand le printemps arrive. Les jeunes ont besoin de se rappeler cela un peu, hein. La souffrance pour rester pure jusqu'au mariage. La souffrance pour ne pas faire preuve d'autoritarisme quand on a une promotion au travail. Tout d'un coup, on a une parole devant laquelle tout le monde doit plier. Et là, on se rappelle celui, notre père, P.A.I.R., celui qui était au même niveau que nous, notre collègue qui nous a vraiment fait baver. Et maintenant, le jour de vengeance est arrivé. Je peux te faire baver. Ben, vous savez, refuser de faire subir ce genre de vengeance à quelqu'un, c'est de la souffrance pour celui qui se retient. C'est de la souffrance de ne pas rendre en fonction de l'injustice que l'on subit. Ça s'appelle la longanimité. C'est-à-dire retenir, ça vient d'une longue colère, c'est-à-dire retenir. Verset 5, s'il vous plaît. De Timothée, chapitre 4. Je ne sais pas, j'entends pas beaucoup d'encouragement, mais je vais continuer à prêcher. C'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que ça va parler à quelqu'un qui nous écoute sur Internet. D'ailleurs, bienvenue à tous les internautes. Et on est bien contents de célébrer ce culte de Noël avec vous, que vous soyez... Voilà, j'ai des réactions. Ah, c'est magnifique. Voilà, il y a quelqu'un de vivant dans la salle. Ce culte de Pâques, certains se disent, elle a fait exprès ou pas? Voilà, bah, je laisserai la réponse en suspens. Allez, non, je n'ai pas fait exprès. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Je vais revenir au message, hein. De Timothée chapitre 4, verset 5. Aïe. Alors, l'apôtre Paul dit à ce jeune Timothée qui a été son disciple, il lui dit, mais toi, ce Timothée qui est pasteur maintenant, il dit, mais toi, sois sobre en tout. Ça veut dire, fais preuve de maîtrise de toi en tout, hein, modère. Et puis, il ajoute un truc un peu bizarre à un pasteur. Parce que les chrétiens parlent. Oh, tu sais, moi, j'ai été maltraité dans des églises. Et ici, le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul, il dit, supporte les souffrances. Et puis, ce qui est encore plus bizarre, c'est ce qui vient après, il dit, annonce la bonne nouvelle. Assure pleinement ton ministère. Se pourrait-il que Paul ait dit à ce pasteur, continue à annoncer la bonne nouvelle, même si tu dois souffrir. Et ainsi, tu accompliras pleinement ton ministère. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul, sans entrer dans l'étude de ce livre à Timothée, qui est absolument magnifique, mais regardez avec moi, deux versets plus haut, au verset 3. Paul dit, pourquoi il y a des souffrances qui sont parfois nécessaires pour rester dans la volonté de Dieu, et notamment vis-à-vis de la parole de Dieu. Il dit « car il viendra un temps ». C'est bizarre parce qu'avant, il n'y avait pas ce temps, il semble. Mais il viendra un temps. Et on sait d'après le contexte que c'est un temps qui est lié au retour de Jésus. Donc, on y est. Il viendra un temps où les hommes, alors les hommes en général, hein, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Je ne suis pas sûre qu'il y a un « e » à désir, mais bon. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Écoutez maintenant cette version-ci. Il est dit « car il viendra un temps » où ils ne supporteront plus l'enseignement saint. Alors, il est évident que les chrétiens sont inclus dans ce verset. Pas que, mais ils sont inclus. Ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, ayant la démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Pas père sur père. Hein. Ces gens-là ne veulent pas être... je dirais, devenir les disciples de quelqu'un. Ils veulent juste des maîtres, un maître ici sur Internet, un maître ici, quelqu'un qui ne leur demande pas des comptes. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Quand il est dit ici, il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, c'est le même verbe que endurer. Et ça m'a parlé. Ce verset-là, ça a fait tilt en moi. Quand il est dit qu'ils ne supporteront plus l'enseignement saint, cela ne veut pas dire qu'ils cessent d'entendre un enseignement. Ça veut juste dire que l'enseignement saint, S-A-I-N, qui est le mot grec hygiène, c'est-à-dire, tu sais, la parole de Dieu va apporter de l'hygiène dans ta vie. C'est-à-dire, elle va apporter une bonne santé, elle va apporter l'équilibre, elle va restaurer, elle va te remplir, elle va apporter une vie propre. C'est comme cela que l'on sait si l'enseignement que l'on reçoit est saint ou pas, s'il est la vérité ou pas. C'est regarde les fruits qu'il y a dans ta vie. Après, il y en a qui ne reçoivent pas l'enseignement qui est saint, comme ici par exemple. Mais il est dit, il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus, où ils n'endureront plus, c'est le même verbe, c'est-à-dire le verbe qui veut dire souffrir, subir quelque chose de pénible, de douloureux. C'est-à-dire que l'enseignement saint, l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de la doctrine de Jésus-Christ, est un enseignement qui parfois est pénible à supporter pour nous. C'est un enseignement qui est difficile à endurer. Quand le Seigneur dit « ne te marie pas avec un inconverti » et que tu as un collègue de travail, je parle inconverti, hein, qui te fait le beau yeux, les beaux yeux, ça peut être difficile. La parole de Dieu, elle va être difficile à endurer là. Mais cette souffrance est nécessaire si tu veux rester dans la volonté de Dieu. Alors ici, on voit que comme il ne supporte plus, il viendra un temps, et on y est, où les gens ne supporteront plus. Ils vont entendre un enseignement qui va demander une vie radicale, une vie consacrée à l'Éternel. Et il y a des gens, ils ne veulent plus l'entendre. Et la Bible dit, ils ont la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables à entendre. Mais bien sûr que oui, tu peux te marier avec un inconverti. Mais bien sûr que tu peux vivre sous le même toit que celui avec qui tu n'es pas marié. Mais bien sûr que oui, tu n'as pas à honorer tes parents. Mais bien sûr que oui, tu peux faire ceci. Et bien sûr que oui, tu peux faire cela. Et la Bible dit, parce qu'ils ne veulent pas endurer, supporter la parole saine, la parole de la vérité, la Bible nous dit ici, ils détourneront l'oreille. C'est-à-dire, encore une fois, ils vont continuer à entendre. Ce n'est pas qu'ils cessent d'entendre, mais ils vont s'arranger pour écouter quelque chose qui leur fait plaisir, quelque chose qui va cautionner leur style de vie. Et la Bible nous dit, ici dans cette version, il est dit, ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Donc, un enseignement saint, la vérité, hein, et dévieront vers les fables, c'est-à-dire ils dévieront tout court. ils dévieront tout court. Vers les fables, vers le péché, vers tout, mais ils dévieront. C'est-à-dire que quand vous déviez, quand vous avez une trajectoire, par exemple, vous voulez aller jusqu'à Nice, jusqu'à Marseille, eh bien, vous avez une trajectoire qui est toute tracée. Si à un moment, vous détournez le regard vers ou l'oreille de votre GPS et que vous ne connaissez pas le chemin, eh bien, à un moment, vous allez dévier et vous continuerez. Mais vous n'atteindrez pas votre destinée. La destination, vous ne la verrez jamais. Les récompenses, on ne les aura pas. La bonne bouillabaisse à Marseille, on ne la mangera pas. Elle sera plutôt décrosée avec du fromage d'abondance. La Bible nous dit simplement, je vous lis dans Marc chapitre 4, verset 17, il est parlé de ceux qui n'ont pas de racines en eux. Ils changent facilement d'avis. C'est-à-dire, ils ne veulent pas endurer, ils vont avec ce qui va les arranger d'entendre. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 11, on va voir l'exemple ici. Hébreux chapitre 11, verset 24. Et vous savez pourquoi Jésus est ressuscité aujourd'hui ? Une des raisons, c'est parce qu'il a enduré la souffrance pour rester dans la volonté et pour mourir. Tu dis, d'accord. Pour ressusciter, il fallait qu'il meure. Ben ouais, mais pour mourir, il fallait qu'il endure, mes amis. Il fallait qu'il endure la souffrance pour rester dans la volonté de Dieu. Il a fallu qu'il accepte. Il avait le choix. Jésus a dit, mais tu sais, je pourrais demander une légion d'anges à mon Père et il les enverrait. Il n'était pas obligé. Il pouvait alléger sa souffrance. Il n'était pas obligé. S'il n'était pas resté dans la volonté de Dieu, c'est toi et moi qui serions restés dans un état de séparation éternelle avec Dieu. Lui serait remonté au ciel. Parce que lui n'avait pas péché. C'est pas pour lui qu'il mourait sur la croix. C'est pas pour lui qu'il allait en enfer. C'est pour toi et moi. Oui, nous célébrons la résurrection. Mais parce qu'il y a un disciple qui a appris, notre exemple suprême, il nous a appris à endurer les souffrances de manière, s'il est nécessaire, parfois la volonté de Dieu, oh, elle est marrante, et on s'engage, on fait un pas avec Dieu, et oh là là, toutes les portes qui s'ouvrent, et il y a une promotion, et puis finalement, on peut payer à nos enfants le voyage qu'on voulait leur offrir, on peut acheter à l'un la maison qu'on voulait lui offrir, et, oh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Mais il y a d'autres moments où faire la volonté de Dieu va impliquer des souffrances pour rester dans sa volonté. Et Jésus l'a fait, même pas pour lui, il l'a fait pour nous. Vous avez trouvé Hébreux chapitre 11. Je sens que j'ai votre attention là. Ah, gloire à Dieu. J'espère que les internautes vont être aussi attentifs jusqu'au bout, parce que quand même, ben, c'est extraordinaire, quoi. Hébreux chapitre 11, regardez à partir du verset 24, il est parlé de Moïse. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa. On est dans le chapitre des hommes et des femmes qui sont connus pour leur foi. Par la foi, il refusa. Quand c'est dur de refuser quelque chose, tu ne pourras le faire que par la foi. Et c'est vrai que refuser parfois implique des souffrances. Refuser d'aider quelqu'un, par exemple, ça implique des souffrances. Tu dis non, c'est celui que tu ne vas pas aider qui va souffrir. Pas forcément. Pas forcément. Quelquefois, c'est dur. Il y a des aides qui ne sont pas bonnes. Il est dit ici,
c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'il a refusé les honneurs et la gloire qui s'attachaient à la filiation. Mais on ne parle pas ici de quelqu'un d'inconnu, on parle de la plus haute des autorités du pays. Et il nous a dit pourquoi il a refusé. Pourquoi il a refusé de se souiller. Pourquoi il a refusé le compromis. Pourquoi il a refusé un soi-disant haut standing. Parce qu'il en avait un qui était plus haut, mes amis. Il est dit, il a refusé aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Non, mais c'est de la folie, ça. On dit, t'es pas... Aujourd'hui, beaucoup de gens auraient dit, mais t'es fou, toi. T'es fou. Tu peux avoir tout ce que tu veux en tant que fille, fils de la fille de Pharaon. Et toi, tu acceptes, tu refuses là pour être maltraité avec un peuple d'esclaves. Aimant mieux être maltraité, on parle de souffrance pour être dans la volonté de Dieu. Il était d'origine hébraïque, cet homme-là, adopté par des Égyptiens. Mais il n'a jamais oublié ses racines. Et il savait que la volonté de Dieu était qu'il soit un des libérateurs du peuple d'Israël. Et parce qu'il connaissait la volonté de Dieu, il a refusé ce haut standing mondain pour pouvoir faire la volonté de Dieu, et cela impliquait endurer la maltraitance et être considéré comme des esclaves. Plutôt que d'avoir la jouissance éphémère du péché. C'est vrai qu'il aurait pu avoir tout ce qui était à sa disposition en tant que fils de la fille de Pharaon, même le péché. Il pouvait pécher à volonté. Il pouvait se mettre en colère. Je ne parle pas que des péchés sexuels, il n'y a pas que ça. Hein. Il pouvait faire preuve d'injustice vis-à-vis de ses subalternes, autant qu'il le voulait. Mais la Bible dit, c'était péché. Et la Bible nous dit, nous donne une petite pépite là, concernant le péché. Le plaisir est éphémère. C'est-à-dire que quand la fin de ce moment de plaisir du péché, que procure le péché, avoir soulagé la colère, avoir une satisfaction charnelle immédiate, avoir mangé le cinquième gâteau alors qu'on t'en a dit un et un... Une fois que la satisfaction est passée, parce qu'à un moment, elle passera. La Bible dit c'est éphémère. Dis à ton voisin, c'est éphémère. Qu'est-ce qui va rester? Parce qu'il y a quelque chose qui vient après. Je répète, il y a quelque chose qui vient après. Il y a des comptes à rendre. Il y a quelque chose qui vient après. Avoir dépensé une somme qu'on n'aurait pas dû dépenser. Et avoir la satisfaction d'avoir ce que l'on veut sur le moment, en sachant qu'on n'aurait pas dû le faire. Et après va venir. Mais, vous savez, je vise personne parce qu'en plus, j'en sais rien. Donc, encore une fois, un des amis internautes va apprécier un don de l'esprit, là, en direct. Alors, et il nous est dit pourquoi, ici, verset 26, il est dit, il estimait en effet... que l'opprobre du Christ, oh là là, l'opprobre, c'est-à-dire la honte qui était attachée à suivre le Christ, était une plus grande richesse, voilà, le plus haut standing que celui d'Égypte, était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, il regardait plus loin, il regardait plus loin que la satisfaction immédiate que donne le péché. Il regardait plus loin, il regardait plus loin vers la récompense. Et d'ailleurs, plus loin, il nous est dit qu'il avait les yeux sur ce qui est invisible. Mais on voit que ici, Moïse n'a pas fait de compromis parce qu'il a accepté d'endurer la souffrance pour rester dans l'obéissance. Jésus a connu la souffrance. Alors oui, Jésus a appris par ses souffrances l'obéissance, c'est-à-dire qu'il a appris. Il a appris aussi que l'obéissance, parce que Jésus n'avait jamais souffert pour obéir au Père avant d'arriver sur cette terre. Ils étaient d'accord. Ils sont d'accord, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un Dieu en trois personnes, tous égaux, tous d'accord. Et quand vous êtes d'accord, vous ne souffrez pas pour faire ce que l'autre vous dit de faire. À nouveau, dites à un enfant qui vous a réclamé une glace, ben « mange ta glace, je crois que vous n'aurez pas de difficulté à être obéi. » Et Jésus a appris qu'il peut exister une souffrance pour rester fidèle à Dieu, pour rester dans la volonté de Dieu. Il peut y avoir un moment de souffrance. Mais, quelqu'un dit « mais ». Cette souffrance aussi est éphémère, mes amis. Ce n'est pas un style de vie. On veut nous faire croire que la vie chrétienne, c'est un style de crucifixion. Style de vie crucifixion, ce n'est pas ça. C'est un style de vie de résurrection. Mais quand il y a des choix à faire pour expérimenter la vie de résurrection de Jésus, parfois ces choix vont impliquer de supporter la souffrance pour rester dans la volonté de Dieu. Il est dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 19, je vous le lis simplement. Il est dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, pas parce qu'ils ont péché, ceux qui souffrent pour ne pas pécher, ceux qui souffrent pour rester fidèles au plan de Dieu. Je ne connais pas un chrétien qui marche avec Dieu depuis longtemps et qui n'a jamais connu ce genre de souffrance. En revanche, je connais beaucoup de chrétiens qui sont en dehors des églises parce qu'ils n'ont pas voulu accepter ce genre de souffrance. Éphémère. Rappelez-vous de ce mot, éphémère. Éphémère. Il est dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Alors, le secret pour endurer, quand on veut rester dans la volonté de Dieu, ben, évidemment que la première des choses, c'est de savoir à qui on cherche à obéir. Si pour toi, le Seigneur, est haut placé dans ton estime et que non seulement il est ton sauveur, mais qu'en plus il est ton Seigneur, c'est-à-dire tu veux qu'il règne dans ta vie, mais c'est plus que cela, tu veux juste l'aimer, l'honorer. Tu veux aimer cette communication, cette communion avec ton Dieu. Si tu as un grand respect pour ton Dieu, bien sûr que sa parole, même si elle est difficile, même si elle implique une souffrance éphémère, momentanée, eh bien oui, on va l'accepter. On va l'accepter parce que c'est peu comparé à ce qu'il a accepté. Et puis, on va l'accepter, on a entendu que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qui compatit dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de souffrance. Et parce qu'il compatit, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir et trouver. C'est-à-dire que Jésus, parce qu'il sait, il connaît, il a expérimenté la souffrance qui peut être subie, mais pas dans le sens victime. On choisit de passer par cette souffrance. On choisit d'endurer cette souffrance pour rester dans la volonté de Dieu. Jésus est passé par là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à donner sa grâce, il est prêt à donner tout ce qu'il a pour nous aider à passer le cap. C'est-à-dire que quand on choisit de ne pas endurer cette souffrance, c'est parce qu'on compte ou bien sur nos propres moyens, parce qu'on ne sait pas ce que Christ a acquis pour nous, ou carrément parce qu'on veut une vie facile de la chair. Aider à rester dans la volonté de Dieu, eh bien, ça se fait en étant rempli de sa parole et de son esprit. Je vous lis Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu, le Seigneur est le Dieu de toujours, il crée les extrémités de la terre, il ne faiblit pas. C'est-à-dire que quand tu t'approches du trône de la grâce, tu n'as pas à te demander si Dieu est faible ou fort. Alors, t'es comment aujourd'hui? Je peux demander de l'aide? Ah, non, t'es trop fatigué. Ah, ok, bon, c'est pas grave. J'attendrai. J'en peux plus, mais j'attendrai. Il ne se fatigue pas. Non seulement il ne se fatigue pas parce qu'il n'est jamais à court d'énergie, mais tu ne le fatigueras jamais. Même si je pense que de temps en temps, on doit un peu l'énerver. Parce qu'il regrette certaines décisions que l'on prend. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous dit « tu me fatigues, allez, je ne veux plus te voir ». Jamais ça n'arrivera. Il est dit « nul moyen de sonder son intelligence ». Il donne de l'énergie aux faibles. Est-ce que tu as besoin d'énergie pour endurer les souffrances parce que tu es en train de résister au péché en ce moment? Est-ce que tu as besoin d'une dose de la vie de Dieu parce que c'est trop difficile de rester à ta place et de ne pas dévier? Ben, la Bible dit « Il donne. Il amplifie l'endurance de qui est sans force. Il faiblisse les jeunes, il se fatigue, même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie. Ils prennent de l'envergure comme les aigles. Ils s'élancent et ils ne se fatiguent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été affermis par le Seigneur. Ils avancent et ne faiblissent pas. On sait exactement aussi ce que nous dit Exode, chapitre 33, verset 14. L'Éternel répondit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et puis, il est vrai que quelque chose qui nous aide à endurer, à rester dans la volonté de Dieu, même si on doit en souffrir pendant un temps, juste rappelez-vous, c'est éphémère. Oui, on sait à qui on obéit. Oui, on veut être rempli de sa parole et de son esprit. Et on veut avoir les regards sur ce que sera la fin de notre endurance, qui est la joie d'avoir obéi. Cette joie de la victoire, cette joie de l'obéissance, cette joie d'avoir attendu le mari ou la femme que Dieu envoie avec son approbation, cette joie de ne pas avoir déménagé trop tôt pour avoir eu un travail qui est plus que quelque chose qu'on aurait fabriqué, cette joie d'avoir accepté de signer un contrat par la foi, cette joie au lieu de se laisser aller à la non-décision qui est une décision. Marcher par la foi va, quand c'est la volonté de Dieu dans le sens positif, ben ça engendre des souffrances. Tu te fais une bonne peur quelquefois. Quelquefois, t'as l'impression d'être au bord d'un précipice et puis tu n'as juste que l'élastique de la promesse de Dieu qui te retient et tu sens que le Saint-Esprit va te donner un coup de pied, va te projeter parce que tu as dit « Oui, j'accepte de faire ta volonté ». Et tu dis « Je sais pas où je vais, je ». Mais il y a cet élastique de la parole de Dieu qui est là. Certains sont fous, ils aiment ce genre de trucs, moi non, mais en tout cas, on sait que si on accepte de faire des pas de la foi dans l'obéissance et qu'on accepte de vaincre cette peur qui provoque des souffrances, eh bien, on sait qu'il y aura la joie du résultat de la foi. Jacques chapitre 1, verset 12 dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve. » Pour un moment, dis à ton voisin, pour un moment. Tu souffres juste pour un moment. Un peu comme une femme enceinte. Et la Bible nous dit, mais quand elle tient ce bébé dans ses bras. Il est dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. » Vous savez que le mot « heureux » est le même mot que « béni », c'est-à-dire « béni ». Christ a acheté la bénédiction pour nous, mais il a besoin de notre coopération. Christ a déjà acheté toutes les bénédictions dont tu auras besoin, et il veut te les donner. Mais si, quand il s'agit d'endurer pour rester dans cette volonté, tu prends l'avion, Jacques chapitre 5, verset 11, il est dit, nous les déclarons heureux, nous les déclarons heureux, rappelez-vous bénis, nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon, tenu pendant juste un moment. Juste un moment, ça va passer. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Pendant le moment de souffrance de Job, la bienveillance de Dieu était quand même là. Une autre version dit, voyez, nous félicitons les gens endurants. Qui a déjà enduré pour rester dans la volonté de Dieu ici? Eh bien, le Seigneur dit, je vous félicite. Ça fait du bien de temps en temps. Hein? Je vous félicite. Je vous félicite. Ben, vous pourriez sourire au moins quand même. On dit merci dans ces cas-là. Merci Seigneur. Une autre version dit, nous disons bienheureux ceux qui ont enduré. Une autre version dit, voyez, les gens qui résistent dans les difficultés, nous disons qu'ils sont heureux ou qu'ils sont bénis. Alors oui, aujourd'hui, eh bien, nous célébrons Pâques, nous célébrons la résurrection. Merci. Parce que nous avons un exemple de quelqu'un qui a expérimenté le résultat de sa foi, la joie, et la joie que Jésus avait, c'était vous et moi nés de nouveau. Il voyait notre futur en lui déjà. Il dit, oh, il dit, je souffre, et il parlait. Mais il dit, mais c'est pour eux. C'est parce que je le vois sortir de son impasse, selon la prophétie qu'on a entendue tout à l'heure. C'est parce que je veux l'amener vers tel pays. C'est parce que je veux lui donner telle famille. C'est parce que je veux qu'il ait la joie de toutes ces âmes qu'il aura gagnées au Seigneur pour moi. C'est parce que je veux qu'il ait la joie de guérir les malades. C'est pour ça que je souffre. Et même ça, c'était éphémère, c'était horrible, indicible, la souffrance que Jésus a endurée pour rester dans la volonté de Dieu. Ce degré de souffrance, aucun être humain n'aura jamais plus à l'endurer. Mais il l'a fait pour que nous n'ayons pas à endurer la souffrance du péché si nous lui cédons. Parce qu'il y a de la souffrance. La Bible dit, le plaisir du péché est lui aussi éphémère. Et quand Jésus est allé sur la croix et qu'il est ressuscité, il nous a donné cette puissance de résurrection. Cette puissance. Alors, levons-nous, s'il vous plaît, Sandrine.